Aujourd'hui, l'émission fait place à un spécial sur deux groupes qui souhaitent venir en aide à la communauté art visuel. Tout d'abord, nous donnons la parole à aux encans de la quarantaine. La crise du coronavirus et les mesures sanitaires n'auront pas que causé des problèmes. Elles auront aussi permis de mettre sur pied des initiatives aidantes pour la communauté art visuel et créative. Des initiatives jetant un pont entre les artistes visuels et le public. Et cette fois, c'est l'artiste en besoin d'aide qui reçoit l'argent de la vente et non une cause sociale, comme c'est souvent le cas lors des nombreux encans bénéfices auxquels les artistes visuels participent souvent. Alors voici une entrevue avec Sarah A. Tremblay, photographe diplômée et technicienne de laboratoire à l'UQAM, avant le confinement, jointe à son domicile en Estrie et qui a créé cette initiative sur Facebook, titrée les encans de la quarantaine qui remporte un gros succès. Elle nous présente le mandat et le fonctionnement de ce groupe géré par un comité de 5 bénévoles. Elle nous fait de plus un bilan à ce stade-ci et nous informe de leur plan d'action dans un futur proche après presque 3 mois de fonctionnement.
J'ai lancé le projet tout seul sur Facebook. À la base, le but, c'était de faire circuler le travail des artistes, de mettre au devant des œuvres et des artistes qui étaient peut-être malheureusement invisibles en ce moment, pas nécessairement dû à la pandémie, mais plutôt à oui, exactement. Comme il y a comme une zone, disons une sélection d'artistes qui est pas vraiment représentée dans le monde, dans le milieu montréalais ou en tout cas québécois, les artistes comme plus émergents qui ont pas encore exposé dans des centres d'artistes ou dans des galeries commerciales, mais qui font du bon travail puis qui ont de la misère à monter, tu sais, à l'échelon, au prochain échelon. Donc le but, c'était vraiment d'aller chercher ces gens-là puis de les mettre au devant, de les présenter puis de leur offrir une vitrine. L'idée de l'encan est venue parce que j'avais également l'espoir de pouvoir donner un peu d'argent à ces artistes-là. Fait que de créer un encan pour les artistes, dans le fond, pas nécessairement juste émergents, mais de la relève, que peu importe leur âge, peu importe leur ville, mais aussi des artistes indépendants, tous les artistes qui sont pas représentés par des galeries commerciales. Un des règlements, c'est que l'artiste vend l'œuvre, le paiement doit se faire dans la première semaine de la vente, mais la livraison de l'œuvre, elle peut prendre plus de temps parce que certains artistes ont peut-être pas produit l'œuvre, tu sais, quand je pense à de l'impression photo, que les centres d'impression sont fermés en ce moment, ou que, comme les nombreux étudiants de l'UQAM, que tout leur travail est tout enfermé à l'UQAM depuis le 15 mars, là. Donc, tu sais, le paiement doit se faire avant la livraison de l'œuvre, ce qui a rendu ça plus possible puis plus démocratique, dans le sens que tout le monde, même s'il n'y avait pas accès à leur travail, pouvait vendre quelque chose en ce moment. Quand j'ai commencé, j'avais dit, envoyez-moi une image, une œuvre directement à mon nom. Mais là, assez rapidement, c'est devenu apocalyptique. J'ai reçu des centaines de courriels. Alors, j'ai créé tout de suite, tu sais, une adresse. Puis là, ça devenait moins personnel à juste moi. Fait que, puis rapidement, ben en fait, ça s'est fait graduellement. Mais des gens ont commencé à m'offrir de l'aide. Est-ce que je peux t'aider avec le compte Instagram? Ça, c'est Andy Maple qui m'a offert ça dès le début, puis de fil en aiguille est devenue, tu sais, je dirais, coordonnatrice générale. Fait que ça a augmenté rapidement, puis on a formé un petit comité de sélection. Présentement, on est 4, c'est sûr qu'on veut agrandir ou en tout cas diversifier notre comité de sélection très prochainement, mais on est 4 qui visitent une centaine de dossiers par semaine, tous des dossiers qu'on reçoit par Internet, qui sont des dossiers assez simples, dans le sens qu'on ne demande pas une grande justification, mais on reçoit des œuvres que les artistes, tu sais, pensent nous proposer la bonne œuvre pour une vente, un encan, mais souvent on prend le temps de contacter l'artiste puis dire, écoute, on a regardé ton travail, Puis on trouve que cette œuvre-là ou cette œuvre-là serait peut-être plus appropriée. Est-ce que ça t'intéresserait de mettre celle-là en vente aux encans? Donc, c'est sûr qu'on fait vraiment un travail de sélection assez précis, je te dirais. puis c'est vraiment ce qui nous branche le plus, là. On aime vraiment ça, travailler sur la sélection en profondeur. Malgré qu'on est très inclusif, comme on aimerait beaucoup avoir plus d'œuvres 3D, des performances, des installations, des interventions, mais c'est plus difficile à vendre. Donc, pour l'instant, ce qui se vend le mieux, évidemment, c'est la peinture et le dessin. Mais tout ce qui est œuvre en édition, comme la gravure, la photographie, c'est plus dur à convaincre. C'est pas nous qui convaincons l'acheteur, c'est la popularité de l'œuvre qui détermine le prix de vente. Nos critères, c'est vraiment, il y a évidemment le côté esthétique de l'œuvre, là. Est-ce que ça s'inclut dans l'art actuel? Est-ce que c'est contemporain? C'est rafraîchissant? Est-ce que ça se vend? Est-ce qu'on pense que ça a un bon potentiel? Ensuite, on regarde vraiment beaucoup. En essayant de rester très inclusif encore, d'où vient l'artiste dans le sens, est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a déjà eu des expositions, est-ce qu'il y a un site web, est-ce qu'il y a... pour pas vendre une œuvre qui serait la seule œuvre que cette personne-là aurait faite accidentellement. Fait que donc on s'assure que c'est quelqu'un qui a un futur, un artiste qui peut être nommé un artiste professionnel, peu importe son stade. Fait que c'est à peu près ça nos critères. Un prix de départ qui est déterminé par nous en relation avec l'artiste, mais je dois dire que les prix de départ au début des encans il y a 2 mois étaient beaucoup plus bas que maintenant. Maintenant, les prix de vente ont augmenté, puis les prix de départ aussi ont augmenté parce que on souhaite pas vendre des œuvres à rabais. Donc c'est ça, c'est sûr qu'un prix de départ à 40$, c'est complètement ridicule. Donc on part toujours, je dirais, autour de 100$ les œuvres. Cette semaine, on va faire l'annonce qu'à partir de la semaine prochaine, donc j'ai pas la date exacte, là, mais la mi-juin à peu près, on va commencer au lieu, parce qu'en ce moment, on partage 3 œuvres par jour, puis ça implique une tâche administrative ou disons de gestion du groupe Facebook, très... qui revient vite, hein? Fait que laborieuse, exact. Fait que donc on va plutôt, au lieu de partager 3 œuvres par jour, 15 par semaine, on va en partager 15 le lundi, puis qui vont toutes fermer le vendredi. Donc tous les acheteurs potentiels vont savoir, ah, le vendredi à 5h, faut que j'aille regarder mes œuvres qui finissent aujourd'hui, au lieu d'avoir à mettre à l'horaire, ah, mardi à 4h, mercredi à 4h, nanana. Ouais, fait que ça va de un nous apaiser administrativement, je crois que ça va centraliser justement, rendre la tâche plus facile pour les gens qui sont intéressés à acheter. Ouais. En ce moment, on est à 120. 120 œuvres. Il y a eu, je vous dirais, 2 œuvres qui n'ont pas été vendues, mais je ne mettrais pas nécessairement l'emphase là-dessus. C'est-à-dire qu'on en a vendu 118 quand même. Merci. Puis donc, on a collecté, ramassé pour les artistes 45 000 $. Ouais, en 2 mois. Ouais, c'est quand même impressionnant. Puis la valeur moyenne des œuvres vendues a beaucoup augmenté aussi depuis le début, ce qui est très encourageant parce que, justement, encore là, on veut que les œuvres se vendent à un bon prix qui justifie la valeur des œuvres. Donc, c'est important pour nous que ça se vende. L'œuvre de Nijuno qu'on a vendue récemment, plus comme une levée de fonds au profit des encans. Donc, ça, je dirais que c'est un petit peu à part parce que Denis Junot, évidemment, est décédé, puis ses œuvres sont dans une fiducie, etc. Donc, c'est sûr que la valeur est différente. Mais sinon, je pense que l'œuvre qui s'est vendue le plus cher, c'était Matt Shane, qui est un ami avec qui j'ai étudié à Concordia, ouais. Un peintre, il fait du dessin aussi. 1350, je pense que ça s'est vendu, mais ça se serait vendu coûte plus cher si l'encan avait fini une minute plus tard. ça prouve que, en tout cas, la peinture, le dessin, c'est très populaire. Puis, ben, j'irais peut-être jusqu'à dire les œuvres de d'artistes masculins. je veux pas embarquer dans le sujet, mais on a remarqué définitivement qu'il y a une différence entre le prix de vente des œuvres d'artistes masculins. Alors, c'est quelque chose qu'on a à cœur de créer une parité là à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que ben on encourage les acheteurs à miser pour les œuvres des femmes aussi. Mm-hmm. Yann Pocro est un de nos collaborateurs et une des premières personnes que j'ai utilisées comme je l'ai consulté beaucoup dans la création du projet dès le début du projet. Puis il a toujours vraiment donné son 110% là vraiment pour me diriger puis tout ça. Puis d'ailleurs il va probablement faire partie du comité administratif là parce qu'on est en formation dans le fond pour devenir un OBNL. Donc on est en train de créer un futur CA. Puis Yann c'est sûr qu'il va faire partie de ça. Donc ça valait de soi. Bon, en fait c'est lui qui a proposé de faire une photo inspirée par la quarantaine, le fait qu'il était toujours à l'intérieur, dans la maison, puis avec une petite touche d'arc-en-ciel. Donc, il y a cette photo-là, malheureusement, j'oublie le titre, mais qui a fait sur mesure, puis qui a vendu et qui a donné une partie des profits à un organisme qui s'appelle, je crois, Kangourou, qui aidait les familles en temps de crise, donc peu importe la crise. Ah, étant donné que moi, je travaillais à l'UQAM, j'ai créé ce groupe-là avec mes contacts immédiats. Donc, c'est sûr qu'il y a une grande partie d'étudiants de l'UQAM, puis je souhaite agrandir ça à d'autres universités au Québec et ailleurs. Mais définitivement, il y a la communauté universitaire, je dirais, est très présente. Mais il y a... Oui, ça inclut autant des techniciens, des étudiants, différentes personnes, donc de différents âges. Mais dans le fond, nous, le seul type de carrière qu'on peut malheureusement pas soutenir en ce moment, ben c'est simplement les artistes qui sont représentés par des galeries commerciales, parce que nous, on veut pas avoir aucun conflit là, avec les artistes qui ont déjà un soutien d'une galerie. Donc, c'est vraiment le sujet sur lequel on a passé la dernière semaine. Donc, c'est sûr que nous, on est un organisme vraiment très nouveau. On est en pleine formation et je peux pas cacher le fait qu'on est entièrement blanc. Toute l'équipe est blanche en ce moment. Non, absolument pas. Donc, c'est sûr que cette semaine, on s'est consulté. On a vraiment fait beaucoup de recherches sur comment on peut évoluer et devenir plus diversifié. Fait que c'est sûr que, comme je vous disais, on est en train de former le comité artistique, le comité, excuse-moi, administratif et le comité de sélection. On veut obtenir assez rapidement l'égalité entre les personnes de couleur et les personnes blanches à travers, tu sais, à l'intérieur des comités. Fait que ça, c'est donc un but qui est pas nécessairement facile à atteindre parce qu'évidemment, on veut pas... identifier des personnes et dire « Toi, t'es une personne de couleur. et viens avec nous pour nous sauver. » Mais donc, c'est comme une démarche qu'on essaie d'apprivoiser puis parce qu'on trouve en fait que le moment est idéal. C'est le moment pour faire ça. Étant donné que nous, on est en pleine formation pour inviter justement des artistes de différentes communautés à se joindre à nous pour continuer l'évolution. En ce moment, puis tu sais, malheureusement, on n'avait pas nécessairement remarqué qu'on présente principalement, majoritairement des artistes blancs, tu sais, mais tout ça vient avec la communauté, tu sais, de l'UQAM, puis de des artistes autour de nous qui sommes tous blancs. Donc c'est sûr que là, il faut vraiment aller à l'extérieur de notre cercle, puis inclure plus de monde. Puis je pense que ça va enrichir énormément notre initiative. On a tous beaucoup appris cette semaine, puis ça a été vraiment une semaine. C'est je pense, difficile pour plein de monde. Ça a été confrontant, ça a été c'est émotif, c'est des émotions, c'est des incompréhensions, un apprentissage. Donc, je pense que c'était vraiment important pour nous de pas juste rester silencieux puis s'absenter, mais vraiment dire « OK, on reconnaît là, qu'on a peut-être oublié d'être inclure les différentes communautés dans notre projet. On prend une semaine pour prendre position là-dessus. Puis là, justement, on prépare justement comme la conclusion de cette semaine-là pour recommencer la semaine prochaine comme avant, mais avec des améliorations. Parce que on voit bien qu'il y a du travail à montrer, il y a des gens qui veulent les acheter, donc on voit pas pourquoi on arrêterait subitement en se disant « Ah, les gens retournent au travail. Non, au contraire, je pense que tout le monde a besoin de voir ce travail-là constamment, puis je veux pas saturer le marché de l'art, mais je pense que ce travail-là mérite d'être vu, puis c'est bénéfique pour les artistes en devenir là, qui sont en émergence, de présenter leur travail, d'avoir du feedback, de faire un petit montant d'argent hyper motivant puis significatif, tu sais, quand tu commences, puis donc je pense que c'est quelque chose qui aura toujours en tout cas nous souhaitons grandement que ça ait sa place à long terme, oui.